Familiarisez-vous avec la loi bouddhique, Dharma. Comme cela arrive si souvent avec n'importe quel centre d'intérêt, oui, vous avez bien entendu, centre d'intérêt. Les gens sont attirés par le bouddhisme pour diverses raisons. Prenez par exemple votre sport préféré. Peut-être avez-vous appris à le pratiquer alors que vous étiez enfant, et peut-être le pratiquez-vous encore depuis. Peut-être aussi un de vos amis vous a-t-il orienté vers ce sport plus tard dans votre vie. Il est possible que vous ayez été inspiré par un match spectaculaire à la télé, ou par la joie contagieuse d'un membre de votre famille. Peut-être enfin avez-vous tout simplement vu un dépliant pour un cours à un centre de loisirs local et décidé ensuite que vous aviez besoin de cet exercice. C'est incroyable en effet, mais les gens se tournent vers le bouddhisme pour des raisons semblables. Les exemples qui suivent illustrent bien cette idée. Certains lisent un livre ou assistent à une conférence d'un instructeur donné et ils sont si captivés par son enseignement qu'ils décident de l'approfondir. D'autres suivent un ami sans rien connaître au bouddhisme et soudain ils sont captivés. D'autres encore recherchent la pratique de la méditation parce qu'ils ont entendu dire que c'est un moyen efficace pour réduire le stress et améliorer la santé. Et lorsque la méditation commence à produire l'effet désiré, ces personnes s'informent davantage et découvrent que l'enseignement bouddhiste leur plaît aussi. Quelques personnes, comme le Bouddha lui-même, ont une vision profonde précoce de la souffrance universelle de la vie humaine et se sentent tenues d'y trouver une solution. Bien plus nombreux sont ceux qui subissent leur propre souffrance profonde dans la présente vie, et c'est d'autres moyens pour y remédier, comme la psychothérapie ou les traitements médicaux par exemple, et ne trouvent qu'un soulagement temporaire. À ces chercheurs-là, le Bouddha propose une approche d'ensemble pour identifier et éliminer la cause fondamentale de leur souffrance. Pour en savoir plus sur la cause de la souffrance et la cessation de la souffrance, écoutez les chapitres 3 et 13. Et certaines personnes, pour telle ou telle raison, croient que leur but dans cette vie est de prévenir à l'éveil complet et que le bouddhisme constitue la tradition et l'étude pour laquelle ils sont nés. Quelles que soient les raisons qui vous ont motivé à vous renseigner sur le bouddhisme, toutes sont également bonnes et valables, ce stade initial d'implication peut en faire durer une vie tout entière. Certains adeptes de longue date de la méditation choisissent de ne jamais se déclarer formellement bouddhistes, bien qu'ils aient étudié l'enseignement et se soient engagés dans les pratiques durant la plus grande partie de leur vie d'adulte. Le premier instructeur de zen de Stéphane l'a même mis en garde de ne jamais dire qu'il était bouddhiste, même après qu'il est entré dans les ordres. Les sections qui suivent présentent quelques-unes des nombreuses manières possibles de s'informer sur le bouddhisme. Nous les abordons dans l'ordre dans lequel les choses se passent souvent, mais le fait est que vous pouvez commencer à vous intéresser au bouddhisme de n'importe quelle façon vous semblant appropriée. De même que tout au long de votre vie, vous pouvez revenir à l'un ou plusieurs de ces points de contact. N'oubliez pas, on trouve actuellement de nombreux excellents livres sur le bouddhisme dans le commerce, ce qui fait que ce point d'entrée représente un début facilement accessible et plaisant. Commencez par des bouquins populaires au début, pour éviter le risque de vous embourber dans la langue difficile des sutras ou dans les énigmes des maîtres de zen. À ce stade de votre engagement dans le bouddhisme, il faut que vous vous serviez de votre intellect dans vos recherches et pour interpréter l'enseignement. Ce que vous lisez vous semble-t-il avoir un sens? Est-ce que cela concorde avec votre propre expérience et votre propre manière de voir les choses? Est-ce que cela jette une lumière nouvelle sur la relation entre vos pensées, vos sentiments et vos expériences? En lisant, notez toutes les questions que vous pourriez vous poser et veillez à ce qu'elles trouvent une réponse. Dans le long terme, les livres ne vous fourniront pas de réponse satisfaisante à toutes les questions profondes de la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Comment puis-je parvenir à un bonheur durable? Il faudra sans doute que vous fassiez directement l'expérience des réponses, ce qui est la raison pour laquelle le bouddhisme souligne qu'il faut mettre en pratique les enseignements plutôt que de se contenter de spéculations intellectuelles sur leurs effets. En parcourant divers bouquins sur le Dharma, vous tomberez peut-être sur des traditions et sur des leçons qui vous plairont particulièrement. Vous sentez-vous attiré par l'approche pratique et progressive de la tradition Vipassana, qui propose diverses pratiques et enseignements accessibles permettant de travailler sur le mental? Ou êtes-vous impressionné par le sentier plus formel et plus énigmatique du zen, dont l'orientation centrale consiste à rechercher ici et maintenant la prise de conscience de votre nature de Bouddha? Peut-être encore vous sentirez-vous attiré par les visualisations élaborées et par les mantras du Vajrayana, qui mettent en jeu le pouvoir d'un gourou et celui d'autres êtres éveillés pour dynamiser votre voyage vers l'éveil. Pour en savoir plus sur ces différentes traditions, écoutez le chapitre 5. Quelques traditions bouddhiques, comme celle des écoles de la terre pure, vont même jusqu'à retirer à la méditation son importance centrale au profit de la dévotion, c'est-à-dire de la foi dans la grâce salvatrice des figures bouddhiques appelées bodhisattvas. Écoutez le chapitre 4. Si vous avez une nature dévotionnelle forte, peut-être que l'une de ces traditions vous plaira particulièrement. Si vous avez adopté une tradition par le biais de l'influence d'un instructeur ou d'un ami, vous avez sans doute le sentiment que sa tradition est celle que vous voulez suivre. Mais si vous êtes encore à la recherche de la tradition qui vous conviendra le mieux, sachez qu'il vaut peut-être mieux d'abord en trouver une qui vous plaise et se concentrer sur celle-ci avant de faire le pas suivant qui consiste à recevoir des instructions de méditation. Nous ne voulons pas dire que vous ne pouvez pas changer de voie à n'importe quel point sur le chemin, ni que les pratiques bouddhistes et les techniques de méditation de base ne sont pas remarquablement semblables dans toutes les traditions. En effet, vous pourrez vraiment changer et ces techniques sont effectivement semblables. Pourtant, les styles des pratiques, qui ne diffèrent peut-être que légèrement au début, se mettent à diverger rapidement lorsque l'on s'engage plus activement sur une voie particulière. Si vous vivez dans une grande ville, vous pourrez sans doute trouver un cours de méditation bouddhique de base dans un centre ou un temple bouddhique. Il y en a, dans toute la France, ou à l'université ou au centre de formation continue dans votre quartier. De nos jours, la méditation bouddhique est aussi proposée sous la forme appelée réduction du stress par la méditation selon la méthode Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, un programme développé par Jon Kabat-Zinn, un adepte de la méditation bouddhique de longue date et chercheur à l'université du centre médical du Massachusetts. En tant que méthode de réduction du stress, la MBSR présente les enseignements de base du bouddhisme sur la souffrance et le sentier qui conduit à son élimination, et elle enseigne la pratique fondamentale de la méditation. Pour en savoir plus sur la méditation bouddhique, écoutez le chapitre 7. La recherche a démontré que la MBSR est efficace pour atténuer tout un tas de problèmes liés au stress. Si vous ne trouvez pas de cours de base de méditation bouddhique ou si vous vous sentez déjà attiré par une tradition particulière, regardez dans les pages jaunes ou dans un journal régional pour voir si vous y trouvez une liste des centres et des temples bouddhiques proches de chez vous. Puis appelez-les et vérifiez qu'ils proposent bien au grand public des cours de méditation. Comme leurs équivalents judéo-chrétiens, certains temples bouddhiques ne dispensent des offices, des cérémonies et des événements communautaires que sur une base hebdomadaire. N'oubliez pas. Si vous ne parvenez pas à trouver ce que vous recherchez sous la rubrique bouddhisme, vérifiez alors les entrées dans la rubrique méditation. De nombreux groupes Vipassana et Zen qui se rassemblent régulièrement trouvent que cette catégorie décrit de façon plus précise ce qu'ils font. Une fois que vous aurez fait une touche, n'hésitez pas à poser quelques questions pour vous assurer que l'organisation en question enseigne le type de méditation que vous voulez apprendre. Puis, allez-y, faites le pas. De nombreux centres proposent des ateliers d'une soirée ou d'une journée durant lesquelles vous pouvez apprendre les règles de base de la méditation en quelques heures. D'autres proposent des cours de plusieurs semaines, ce qui vous permettra de poser des questions tout en mettant l'approche à l'essai. Dans tous les cas, veillez à toujours avoir accès à un instructeur pour le cas où vous auriez besoin de le consulter, par téléphone par exemple, ou en vous rendant à d'autres cours. Bien que les techniques de base soient en général assez simples, on peut mettre des mois ou des années à les maîtriser parfaitement. Et il est quasi certain que vous rencontrerez divers obstacles et que vous vous poserez diverses questions en chemin. Prévoyez d'élaborer votre pratique de méditation et de continuer à la développer tout au long de votre parcours de méditant. Les adeptes les plus accomplis de la méditation eux-mêmes affinent constamment leurs techniques. C'est l'une des joies et des satisfactions qu'apporte la méditation. Elle offre la possibilité d'une exploration et d'une découverte infinie. Pour en savoir plus sur les techniques de méditation, écoutez le chapitre 7. Dans les mois du début de votre rencontre avec la méditation, votre attention sera concentrée sur la nécessité de trouver le temps et un endroit convenable pour pratiquer et pour vous familiariser avec les techniques de base, comme l'attention à la respiration ou l'établissement d'un sentiment de bonté. Il ne fait quasiment aucun doute que vous aurez des questions comme « Que vais-je faire de mes yeux et de mes mains ? » « Ma respiration semble pénible et tendue. Y a-t-il un moyen de la détendre ? » « Comment puis-je éviter de perdre complètement la trace de ma respiration ?» Il est parfaitement normal de se poser ce genre de questions, et c'est pour cela qu'un suivi est crucial. En effet, la plupart de ceux qui abandonnent la pratique de la méditation le font parce qu'ils ne disposent pas d'un encadrement correct, plutôt que pour toute autre raison. En plus des questions relatives à la maîtrise de la technique, vous pouvez vous informer sur les enseignements du bouddhisme pour qu'ils vous inspirent et éclairent votre pratique de la méditation bouddhique. Vous pouvez participer à des conférences sur le dharma, lire des livres sur le sujet et méditer régulièrement, afin que tout cela se combine pour vous faire progresser. Alors que vos aptitudes à la méditation s'améliorent, les enseignements vous semblent avoir plus de sens, et inversement, tandis que votre compréhension du dharma progresse, votre méditation s'approfondit naturellement. Peut-être méditerez-vous avec bonheur pendant des mois ou des années sans ressentir le besoin de vous faire encadrer par un instructeur. Après tout, avec tous les livres consacrés au dharma, qui sont sur le marché aujourd'hui, les leçons les plus profondes ne sont éloignées que d'un simple clic ou que de quelques kilomètres, selon que l'on choisit d'acheter dans une librairie en ligne ou dans une librairie normale. Bien sûr, vous consultez peut-être déjà de temps à autre un instructeur de méditation ou vous vous rendez peut-être de temps en temps à des conférences données par des instructeurs bouddhistes. Mais choisir un instructeur pour qu'il vous guide dans votre voyage spirituel, ça, c'est un niveau d'engagement complètement différent. N'oubliez pas. Dans les diverses traditions bouddhiques, le rôle de l'instructeur prend des formes différentes. Le Theravada. La tradition Theravada de l'Asie du Sud-Est, par exemple, considère l'instructeur comme un Kalyanamitra, un ami spirituel. Pour l'essentiel, ce compagnon de voyage sur le sentier vous conseille d'aller un peu plus vers la gauche ou un peu plus à droite lorsque vous déviez du cap fixé. En dehors de ce type d'indication, un instructeur n'a pas d'autorité spirituelle particulière, mis à part qu'il ou elle a sans doute davantage d'expérience que vous. En français, le terme de mentor est peut-être mieux approprié pour décrire ce rôle. Le Vajrayana. Dans le Vajrayana, on trouve différentes formes d'instructeurs, dont les geshés. Ces gens sont habituellement des moines qui disposent d'une formation théorique approfondie et excellents dans l'interprétation et l'explication des écritures. Les instructeurs de méditation. Ces instructeurs fournissent un encadrement de spécialistes pour le développement et l'approfondissement de la pratique de méditation. Il peut s'agir de moines ou de nonnes ou simplement d'adeptes laïcs expérimentés. Les gourous. Les gourous sont appelés lamas en tibétain. Ces instructeurs sont souvent des moines, mais pas toujours. Les gourous ou lamas possèdent une grande expérience de la méditation. Ils ont accompli de grandes réalisations spirituelles et sont vénérés par leurs disciples comme étant les incarnations des qualités éveillées de la sagesse et de la compassion. N'oubliez pas. Lorsque vous adoptez un instructeur comme votre gourou, vous prenez en général un engagement pour toute la vie. Bien que vous puissiez modifier votre engagement ou y mettre fin, le fait de prendre une attitude hostile envers son gourou est en général considéré comme pouvant entraîner de graves conséquences karmiques. Dans la tradition zen, les adeptes considèrent que le maître, appelé en japonais Roshi et en coréen Sunim, possède un pouvoir et une autorité spirituelle considérables. Comme c'est le cas pour le gourou, les disciples estiment que le maître est éveillé et qu'il possède l'aptitude à susciter des réalisations semblables chez ses disciples à travers les mots, les gestes et l'attitude. L'étude, étroitement encadrée par un maître de zen, constitue un élément essentiel de la pratique et de la formation. Le zen possède aussi ses instructeurs subordonnés pour l'enseignement de la méditation et du reste, mais la présence spirituelle du maître est toujours omniprésente. D'habitude, un adepte choisit son instructeur en fonction de la tradition qui lui plaît. Parfois, pourtant, les choses marchent dans le sens inverse. On se sent d'abord attiré par un instructeur à travers ses livres ou ses conférences, et puis on adopte la tradition qu'il ou elle représente. Selon un vieil adage indien, lorsque le disciple est prêt, le maître paraît. Il n'est pas nécessaire de se presser pour trouver son instructeur. Comme le fait observer l'adage, le fait de trouver le bon instructeur dépend sans doute plus de la sincérité de la pratique de l'adepte que de circonstances extérieures. En conséquence, faites confiance à votre intuition et à votre propre art de choisir le moment approprié. Dans de nombreuses traditions, l'établissement de rapport avec un maître donné précède ou accompagne l'engagement formel du disciple sur la voie bouddhique. Attention ! Un dernier mot d'avertissement. Veillez soigneusement à tout bien vérifier en ce qui concerne vos questions portant sur un maître potentiel, avant de devenir officiellement son disciple. Posez des questions, faites des recherches et passez autant de temps que possible avec ce maître. Au cours des dernières années, plusieurs instructeurs bouddhistes, parmi lesquels des occidentaux comme des asiatiques, ont eu en Occident une conduite non éthique qui a entraîné des conséquences néfastes pour leurs disciples et pour leur communauté. Comme dans toutes les interactions humaines, ne laissez jamais de côté votre propre jugement et votre propre discernement.
Le gourou observé de près. Un proverbe tibétain fait observer que vous ne devriez pas choisir un gourou comme un chien affamé se précipite sur le premier bout de viande qu'il trouve. Confier votre encadrement spirituel à quelqu'un, c'est une affaire sérieuse qui nécessite un soin tout particulier. Lorsque le grand pratiquant indien Atisha atteignit le pays éloigné dans lequel on lui avait prédit que vivait son gourou, il ne se rendit pas immédiatement chez le gourou pour demander à recevoir son instruction. Au contraire, il passa quelque temps parmi les disciples du gourou. Cela lui permit de se faire une idée du type d'effet que cet instructeur avait sur eux, et donc de voir quel genre de personne était cet instructeur, avant de décider ou non de prendre un engagement formel envers lui. Une autre histoire, probablement mythique, raconte qu'un homme alla un jour trouver un instructeur célèbre et lui déclara « Cela fait 12 ans que je vous observe et je vois que vous possédez toutes les qualités d'un véritable maître spirituel. Je suis maintenant prêt à vous accepter comme gourou. » L'instructeur répondit alors « Très bien, mais d'abord je dois moi-même vous observer pendant 12 ans pour voir si vous possédez toutes les qualités d'un véritable disciple. » Lorsque des bouddhistes occidentaux lui demandent conseil à ce sujet, Sa Sainteté, le Dalaï Lama, encourage de façon répétée les disciples potentiels à prendre leur temps pour évaluer un instructeur, en faisant des recherches personnelles, en réfléchissant et réfléchissant sur leur vécu avant de lui confier leur bien-être spirituel. En particulier, il avertit les adeptes des dangers constitués par le charisme, la tromperie, l'étroitesse d'esprit ou l'exotisme de certains. Bien qu'il ne faille pas forcément 12 ans pour prendre une décision, le Dalaï Lama suggère qu'observer ce que fait l'instructeur en question pendant 2 ou 3 ans est sans doute une excellente idée.